Bon, et ben voilà. Alors bon courage. Mais
plus tôt vous commencerez, et moins vous serez incommodé par le soleil. Parce que là, il va faire chaud aujourd'hui. Hier, il a fait très très chaud. Hier après-midi, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit.
Et le raisin trop chaud, c'est pas bon.
En plus.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission qui parle du lien tissé autour de la table, de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons aussi. Et oui, la saison s'y prête de ce côté-ci de l'hémisphère. Dans les vignes, on voit des taches de couleurs, les t-shirts des vendangeurs penchés sur les cèpes qui se fondent dans le vert des feuilles. C'est le moment de la récolte, moment clé évidemment pour aboutir dans quelques mois au vin que nous partagerons et que nous dégusterons ensemble. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en studio avec nous un couple de jeunes vignerons installés depuis peu dans une des régions vignes Nicole de France, au nord de Lyon, dans le Beaujolais, une région connue du monde entier pour son vin nouveau. Un mot, avant de les saluer, nous prendrons aussi des nouvelles du domaine du Clos des Baobabs. Au Sénégal, saviez-vous que l'on fait du vin près de Dakar? C'est le premier vin d'Afrique de l'Ouest, des vignes sous les Baobabs et un cru 2020 qui s'annonce prometteur. Bienvenue, bienvenue à tous et merci d'être avec nous, Iris Mauclair. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Vincent Lebeugue.
Bonjour.
Donc tous les deux, vous étiez parisiens. Puis vous vous êtes dit,
on s'est dit le vin d'abord. Avant tout, c'était pas spécialement le Beaujolais. On était très consommateurs, on faisait beaucoup de salons, on rencontrait beaucoup de vignerons. Et puis au bout d'un moment, on s'est, à force d'aller passer du temps chez les uns chez les autres, on a fait quelques stages aussi chez des vignerons sur nos vacances. Et puis on s'est dit que c'était la vie qu'on avait envie de mener. Voilà, donc.
Faut chercher une solution pour s'échapper de Paris.
Vous aviez envie d'une autre vie.
Voilà.
Mais le vin, c'est pas quand même par hasard, parce que c'est un travail, on est dans l'agriculture, on est dans la production, on dépend de la nature.
Oui, oui.
C'est pas un choix totalement innocent.
Non, non.
Vous, Iris, est-ce que vous connaissiez le vin, vous êtes tombée dedans comment?
Quand j'étais petite, j'avais un papa très amateur, enfin je l'ai toujours d'ailleurs. Donc il nous a très vite fait goûter tout un tas de trucs, emmené chez des vignerons. Donc on a été sensibilisés à la chose assez jeune, pas trop non plus quand même.
Mais vous le présentez comment ce vin?
Il avait beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les producteurs. Il aimait beaucoup leur personnalité, donc il parlait beaucoup des producteurs. De l'endroit où c'était fait, enfin c'était tout un ensemble.
Oui, c'était pas juste le vin, c'était un contexte.
Le monde du vin.
Oui, disons en tout cas le vin, mais aussi celui qu'il faisait, le lieu d'où il venait. Enfin, généralement c'est comme ça qu'on décline. Hein. On parle d'un Bordeaux, on parle d'un Bourgogne. Après, voilà, tout le monde suit à peu près. Après, on parle de cépage. Il y a déjà la moitié des gens qui commencent à être largués. Et puis, quand on parle du producteur, là, ça devient plus une affaire de spécialiste, de plus en plus, quoi. Bon, bah, si dès le départ on est accoutumé à parler du producteur, bon, bah, on devient spécialiste malgré soi.
Ce qui est du bon sens, d'ailleurs. Et pourquoi avoir choisi le Beaujolais?
J'avais une très bonne amie à l'école viticole à Beaune qui s'appelle Pauline, qui est beaujolaise et qui nous a présenté tous ses amis vignerons. Donc on connaissait déjà pas mal de gens. Et à chaque fois qu'on y était allé, on avait adoré l'ambiance, on était bien accueillis. Et puis le Beaujolais, on s'installe facilement parce que justement, c'est un peu déshérité. Il y a plein de terres abandonnées, donc la terre est pas chère. On est bien reçu. Et puis c'est une région. Enfin, il y a une tradition de petits vignerons ancestrales là-bas. Donc il y a plein de petits métiers. On trouve tout ce qu'on veut pour des petites productions. C'est vraiment.
On avait envisagé plein d'endroits. Alors elle vous a parlé de Beaune. C'est l'école qu'on a faite.
Donc en Bourgogne, un peu plus haut, voilà. Sur la carte de France.
Voilà. Puisqu'on s'est dit que c'était quand même mieux si on suivait une formation. On peut, en théorie, ne pas aller à l'école pour se former, mais on souhaitait quand même essayer d'avoir un cursus, parce qu'on n'était pas sûr de pas demander une aide à la création
d'entreprise,
ce qu'on appelle la dotation aux jeunes agriculteurs, pour laquelle il était nécessaire d'avoir un diplôme.
Oui, puis on connaissait pas de toute
et
façon les bases, quoi,
l'anatomie
de la vigne.
Il nous manquait certaines bases.
La chimie du vin, c'est quand même des choses qu'il faut apprendre.
Voilà, après, donc on a décidé d'aller à l'école. À cette école, on a rencontré des gens qui nous ont... voilà, on a formé une espèce de promotion, un club d'amis. Donc évidemment, on les a rejoints assez naturellement. On avait des velléités dans d'autres régions auparavant. mais tout nous a mené au Beaujolais.
Le Beaujolais nouveau, internationalement connu, c'est un vin nouveau, primeur, qui a pris un peu toute la place au fil du temps et dont l'appellation a introduit une certaine confusion auprès des consommateurs nouveaux. Pour les uns, c'est compris comme un vin pas terminé, pas forcément bon, ce qui est faux, mais l'idée est restée dans les esprits. Alors, s'installer dans le Beaujolais, c'est une démarche, un parti pris, surtout pour faire du vin naturel.
Avec l'appellation Beaujolais.
Avec l'appellation Beaujolais.
Parce qu'il y a plein de gens qui vont préférer faire du vin de France. Ça se vendra mieux que si c'est marqué Beaujolais sur l'étiquette. Hein, donc.
Iris, pourquoi vous avez choisi cette région? Est-ce que votre père, par exemple, vous avez parlé de ce terroir particulier?
Eh ben, mon père ne connaissait pas le Beaujolais. Il en buvait, mais il n'était jamais venu dans le Beaujolais, ce qui est quand même.
Oui, ça illustre très bien ce que vous disiez. C'est un caviste qui a beaucoup de compétences, qui fait son métier avec sérieux. Il s'était jamais intéressé au terroir Beaujolais.
Mais pourtant, il y a le Morgon, il y a le Fleury, il y a des crus.
Ah, mais il aimait bien les vins.
Mais il avait l'impression qu'il n'imaginait pas que ce soit beau comme c'est, parce que c'est super beau.
Nous non plus, d'ailleurs. Ouais.
Et d'ailleurs, nous non plus.
On pensait que c'était tout plat, avec des grandes parcelles à perdre de
tout plat, non, mais on ne pensait pas que c'était si montagneux, si varié.
Ah, ouais, c'est vrai.
Et ça, c'est l'effet grande marque Beaujolais Nouveau.
Oui, c'est ça.
On se dit que c'est industriel.
Ben oui.
Alors que bon, si vous fermez les yeux là, Iris, racontez-moi qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes chez vous, donc à Lantigné.
Je vois toute une succession de... Enfin, il y a plusieurs plans de montagnes.
Des collines.
Voilà, des collines qui se chevauchent comme ça. C'est beau ce qu'on voit de chez nous.
C'est un appel à la rêverie, parce qu'il y a un enchaînement de vallons qui s'entrecroisent jusqu'à une montagne qu'on aperçoit au loin qui s'appelle le Tourvéon, qui est à près de 1000 mètres, puisque donc le plus haut sommet du Beaujolais est à plus de 1000 mètres, 1005 je crois, un truc comme ça.
Non. Les cyclistes s'en souviennent.
Il y a beaucoup de cyclistes dans le Beaujolais.
Il y en a, ça c'est sûr que faire du vélo là-bas, c'est pas une sinécure, c'est vrai.
La terre, à quel aspect, quelle couleur?
Alors, la côte des crues, c'est surtout des sables roses. C'est que du sable, donc il n'y a pas de terrasse. Enfin, ça, c'est l'autre aspect compliqué du Beaujolais, c'est que c'est sableux, donc... Pas de terrasse et en pente. Donc, je pense qu'il cumule toutes les difficultés, haute densité de plantation, 10 à 11 000 pieds hectares, du sable.
Pour la région des crues. Non, le Beaujolais, c'est très grand.
Nous, on a plus des pierres bleues, c'est des diorites, avec un peu d'argile. Enfin, il y a plusieurs sols. Après, on pourrait plus détailler, mais en gros, voilà, il y a le rose, le bleu. Beaujolais Sud, il y a du calcaire, le brun.
Le brun du Morgon,
Oui, c'est une diversité des sols qui est très intéressante aussi, ce qui permet aussi d'avoir une grande diversité de vins.
Oui, c'est vrai.
Il y a des limons aussi dans les bas de Morgon.
C'est vrai, on est surpris. Alors cela dit, il faut sans doute y habiter pour pouvoir vraiment s'en rendre compte, mais on est surpris des différences qu'il y a entre les crus du Beaujolais. Indépendamment de la façon dont ils sont faits, mais si en plus on s'intéresse à la façon dont ils sont faits, vraiment on a une diversité formidable. C'est vrai que c'est malheureux de voir à quel point maintenant le public confond tous les Beaujolais avec le Beaujolais nouveau. Ça, c'est vrai que c'est un peu.
Mais par contre, les gens pensent que le Morgon, ça n'est pas du Beaujolais. Le Fleury, c'est pas du Beaujolais.
Oui, il y a une anecdote comme
les
ça.
Les gens détestent le Beaujolais, mais adorent le Morgon. Enfin, c'est. On ne sait pas, en fait, que le Morgon, c'est du Beaujolais.
Il y a une anecdote marrante comme ça. C'est que. On a rencontré un responsable des achats d'une grande surface qui nous a dit. Parfois, je me trompe et je mets le Juliena avec le Vaquera. Et donc, les gens l'achètent plus facilement quand il est au rayon Côte-du-Rhône qu'au rayon Beaujolais. Donc ça, c'est tout à fait exemplaire.
Au supermarché.
Iris Mauclair, Vincent Lebec, vous avez choisi de faire pas n'importe quel vin. Ça, c'est une autre démarche aussi. En fait, vous avez choisi de compliquer tout ce qui pouvait être compliqué. Vous avez choisi de vous lancer dans du vin nature. Ouais. Alors déjà, est-ce que peut-être Vincent, qu'est-ce qu'on appelle un vin nature? Nature, naturel, d'ailleurs, on entend les deux termes.
Bah, de toute façon, il n'y a pas de label écrit décrivant précisément le vin nature. L'association des vins nature... des vins naturels d'ailleurs, a établi une charte listant un petit peu le cadre qu'il faut respecter pour pouvoir se revendiquer d'un vin naturel, mais ils ont du mal à être d'accord entre eux déjà, parce que finalement...
La définition
est quand même difficile.
Bon, mais on va dire, doit faire une définition simple.
Définition simple, c'est un vin sans intrants,
Donc
sans adjonction de produits œnologiques au moment de sa vinification. On parle évidemment des sulfites ajoutés qui sont des conservateurs, mais on parle aussi éventuellement des levures extérieures qui ne sont pas donc les levures indigènes de la...
Ça y est, là vous êtes compliqué. Alors en gros, un vin nature, on est d'accord, c'est un vin qu'on ne touche pas.
On y touche, mais on y touche d'une manière sans ajouter
quoi que ce soit.
Oui, c'est du jus de raisin fermenté.
C'est le travail et le savoir-faire du vigneron en prenant en considération tout plein d'éléments. Mais on n'ajoute rien.
Oui, c'est ça.
Et on essaye de ne rien ajouter.
Et on ne retire rien. Et on se souvient surtout qu'à l'intérieur, en fait, quand le vin, le processus de vinification, il y a des levures qui sont contenues à l'intérieur des raisins, qui du coup se développent à l'occasion de cette vinification. C'est ça. Comme pour le pain.
C'est un produit fermentaire.
Les levures endogènes.
Indigènes. Elles ne sont quand même pas générées par le raisin.
En tout cas, elles sont sur la peau du raisin.
Mais
il faut savoir les faire.
Elles vivent avec le raisin.
Et il faut savoir les révéler. Et c'est ça que vous avez appris à faire.
Oui. Enfin, c'est surtout, c'est ça qu'on a apprécié dans le vin quand on l'a dégusté. On a fini par apprécier surtout ça. On s'est rendu compte que les vins qu'on préférait, c'était ceux-là. Donc, on ne savait pas ce que c'était, mais on s'est rendu compte de ça. Et donc, c'est ça qu'on a eu envie de faire, naturellement. Le plus simple pour nous, c'était de faire du vin naturel. Maintenant, au niveau...
C'est pas le plus simple, mais...
Au niveau technique, c'est pas forcément le plus simple. Parce que effectivement, il y a tout un tas de recettes qui cèdent des produits chimiques et de certaines pratiques, puisque ça ne se résume pas à l'ajout ou au retrait de produits.
D'ordinaire, c'est ça, dans la vinification.
Il y a tout un tas de manipulations, des processus mécaniques. Toutes ces recettes-là permettent de donner les vins qu'on trouve précisément en supermarché, c'est-à-dire des vins très standardisés, qui ont pratiquement tous le même goût. C'est assez courant, finalement, aujourd'hui, de prendre une bouteille au hasard dans un liner de supermarché et d'avoir exactement le même vin, alors qu'on est dans deux régions différentes.
Alors, si la levure interagit avec le raisin, si le raisin, c'est la levure, le raisin est posé sur un sol, donc le sol a un goût, donc vous allez avoir des goûts différents, c'est aussi ça. C'est l'expression de ces terroirs, Iris, qui vous a intéressé, que vous cherchez aujourd'hui, justement.
Oui, alors après, nous, on a récupéré des vignes qui étaient désherbées chimiquement, donc pour l'instant, les racines sont en surface, donc c'est à nous aussi de travailler pour qu'elles plongent, parce que plus elles vont plonger, mieux elles vont résister à la sécheresse déjà, et meilleure serait l'expression du terroir, enfin c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on entend quoi. Mais pour l'instant, bon, on a que des vignes
mais ça veut
aux
pas
racines
dire que...
superficielles, mais bon, ça n'empêche pas le vin d'être bon, hein. On a quand même un climat, il y a quand même une expression du terroir.
Mais ça, le vin nature, c'est ce qui le permet, puisque le goût n'est pas masqué.
Oui.
Le goût de ce vin.
Après, selon la macération, le type de macération qu'on va faire, on aura aussi un... Par exemple, nous, on a fait des macérations carboniques.
Alors, qu'est-ce que vous appelez une macération?
Non, c'est les grappes entières. Le raisin doit être en grappe entière pour que chaque grain soit bien scellé, parce que c'est une fermentation qui se passe dans le grain de raisin. Contrairement à la fermentation alcoolique, qui se passe dans le jus, avec de l'oxygène. Donc, c'est pas les mêmes levures, c'est pas les mêmes micro-organismes qui interagissent. Dans le grain de raisin, c'est des organismes qui se passent d'oxygène.
Des enzymes.
C'est des enzymes. Donc, c'est pas du tout les mêmes goûts. Ça apporte beaucoup plus de fruits.
Ça libère pas les mêmes goûts.
Et donc, il y a des gens qui trouvent que la macération carbonique gomme le terroir. Par exemple, c'est pareil, ça peut aussi lisser, donner un type de vin très fruité qu'on va retrouver un peu d'une région à l'autre.
En tout cas, le processus fermentaire, évidemment, il est essentiel pour définir l'arôme du vin et son goût. Et ce processus, il se fait par un enchaînement de réactions biochimiques
qui font
intervenir divers micro-organismes, dont des levures qui sont présentes naturellement sur la peau du raisin et aussi d'ailleurs sur le sol éventuellement qui est sous le raisin et dans l'air autour du raisin, puisque on est quand même entouré de micro-organismes, hein, on nage dedans, on en respire sans arrêt, des bactéries, des levures, on n'arrête pas. Hein, et l'environnement dans lequel le raisin grandit génère une certaine population de levures qui vont intervenir pour la réalisation du vin qui va en être tiré. Donc, plus cet environnement est sain et naturel, et plus la population des micro-organismes qui vont fabriquer le vin sera riche, et donc plus les arômes seront importants, et diversifié, et plus on aura une expression de terroir, de climat, et éventuellement, en dernier lieu, la patte du viticulteur et du vigneron, et du vinificateur, parce que il va faire tout ce qu'il peut pour révéler le plus possible toute cette diversité. Donc il y a de la technique, mais il y a surtout une sensibilité,
un savoir-faire,
et puis un choix initial qui consiste à favoriser les processus naturels. Donc c'est pour ça qu'on, si on parle de vin naturel, il faudrait, pour être vraiment précis, dire un vin qui est fabriqué dans le respect des processus naturels. Voilà. Enfin, qui est fabriqué, qui est dont on accompagne la fabrication.
Qu'on bichonne, qu'on aide.
Voilà,
qu'on accompagne.
C'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Évidemment, on fait tout un tas de choses. Et d'abord, on est super attentif. On déguste tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour être attentif aux moindres déviances qui peuvent survenir, parce que tout ne va pas de soi. Il y a plein de possibilités de déviances quand le vin se fabrique. Certains micro-organismes sont souhaitables, d'autres pas du tout. Donc parfois, ceux qui sont pas souhaitables prennent la place de ceux qui sont souhaitables. Donc là, il faut qu'on réussisse à intervenir pour empêcher qu'ils mettent tout le monde par terre. Alors, on peut avoir une approche extrêmement raide et radicale et dire on ne va utiliser aucun intrant, par exemple, pour laisser les processus naturels se faire jusqu'au bout, quand bien même ça finirait par donner du vinaigre. Mais c'est difficile à vendre, le vinaigre. Donc, nous, notre approche, c'est plutôt d'essayer de favoriser ça le plus possible. Et puis, bon, bah, si on doit intervenir, on interviendra.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Again, baby, the Creedence Clearwater Revival sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde avec Iris Mauclair et Vincent Lebègue, ancien libraire et technicien du son, aujourd'hui vigneron. Ce Pagan Baby bien rock, ce sont eux qui l'ont choisi. Ils voulaient le partager avec vous et se souvenir aussi de tous les moments passés à l'écouter à fond dans leur voiture alors qu'ils sillonnaient les routes du Beaujolais pour trouver leur maison, leur vigne, leur domaine, Croix-Charnay, dans le Beaujolais. En Beaujolais, est-ce que c'est une appellation... On vous a regardé un peu bizarrement, ou il y a déjà...
Non,
Parce qu'il y a quand même un des précurseurs de ce vin, justement, que l'on accompagne simplement, qui est Jules Chauvet.
Ah oui.
C'est un homme qui a été...
connaît bien.
Chimiste de formation.
Microbiologiste.
Microbiologiste, ouais. Qui a donc étudié ça, et est-ce que vous diriez qu'il est un peu, si ce n'est à l'origine, qui est l'un des penseurs de ce renouveau du vin naturel, du vin nature?
Oui, enfin, c'est-à-dire, si on prolonge l'axe développé tout à l'heure, c'est sûr que on peut le considérer comme le père du vin nature. Sauf que lui, il a jamais cherché à établir justement de restrictions. En particulier, il n'était pas du tout rétif aux produits chimiques, par exemple. Donc ça semble paradoxal, mais il faut quand même s'en rappeler qu'à l'époque où il travaillait, on va dire, entre l'avant-guerre et la fin des années 70. C'était l'explosion des produits chimiques. Il faisait partie des gens qui étaient fascinés par ce que ça pouvait apporter. Y compris aussi la mécanisation, les tracteurs, tout ça, c'était une nouveauté bouleversante.
On était dans un autre courant, on était au sortir de la guerre, les impératifs
voilà,
étaient différents.
Il y avait toutes sortes d'impératifs. Donc lui, pour lui, il y avait pas d'a priori négatif par rapport à ça, mais par contre, il était visionnaire sur le fait qu'il se rendait compte que on n'allait pas servir de ces progrès pour améliorer la qualité des produits, mais pour en augmenter la productivité, la quantité. Et c'est ça qui lui posait problème. D'ailleurs, voilà, il disait, c'est bien de mettre des produits chimiques dans le sol, mais il faut que le sol soit capable de les absorber. Et de les neutraliser, ces produits chimiques. Sinon, ça va plus. Donc là, il parlait de la vie du sol, avant même que ça ne soit établi, si on peut dire.
Un vin sans chimie, sans pesticides, bio, naturel, c'est ce que le consommateur demande et recherche aujourd'hui, soucieux de sa santé et de l'environnement. Le journaliste Antonin Yomi Amunategui enquête et écrit sur ces vins nature depuis plus de 10 ans.
C'est un vin sans filet. Les vignerons et les vigneronnes qui font du vin naturel, chaque année, remettent tout en jeu, font tapis, et peuvent perdre leur récolte, ça arrive très régulièrement, en vinification ou même avant, mais ça touche évidemment tous les viticulteurs qui peuvent subir la grêle, le gel, j'en passe, c'est des meilleurs, la canicule récemment. Donc il y a vraiment un travail, en fait, on dit souvent que le vin naturel c'est un vin de feignant, parce qu'ils font rien. C'est tout le contraire. C'est le vin le plus dur à faire.
Si on reste sur le vin français, on a utilisé beaucoup de produits chimiques, d'intrants dans l'élaboration des vins. Le consommateur ne veut plus ça. Quelle est la prise de conscience qui est en train de se faire?
Alors, heureusement, il y a un certain nombre de médias, de défenseurs peut-être d'une cause aussi, de partisans, qui mettent en lumière les problématiques que causent notamment les pesticides. En France, on déverse, bon an mal an, 65 000 tonnes de pesticides dans l'agriculture. Ces sommes astronomiques de pesticides utilisés d'année en année ne baissent pas. Malgré tout, les beaux effets d'annonce, ça baisse assez peu. Dans le vin, c'est un peu différent. Là, ça a baissé vraiment, je pense, un peu, puisque le bio a progressé et continue de progresser. Moi, j'ai tendance à dire souvent que le vin est à l'avant-garde de l'agriculture. Parce que le vin, à tort ou à raison, est jugé plus prestigieux et plus visible. Donc si le vin change, l'agriculture va changer, et c'est bien. Et le vin naturel va encore plus loin, lui, puisqu'il dit, c'est très bien la vigne, mais il faut continuer. Il faut pas tout foutre en l'air derrière, une fois qu'on a rentré le raisin dans la cave. Et donc là, on ne triche pas non plus, on met pas des produits chimiques à tout va, pour changer, pour rectifier, pour standardiser le goût. Parce que le goût du vin aussi, c'est quand même essentiel. Le vin, c'est du plaisir. Un bon vin, ça passe aussi par des vins qui ne sont pas rectifiés, qui ne sont pas modifiés, où on ne triche pas. Des vins artisanaux. Évidemment, les vins naturels sont d'abord des vins d'artisans.
La tendance est mondiale à l'égard du vin nature.
C'est même l'essence du vin naturel et ce qui lui permet de tenir. Parce qu'il y a une demande extrêmement forte à l'étranger. Certains vignerons exportent 80-90% de leur production.
Tout ça, par exemple.
Au Japon, beaucoup. Les Japonais sont des fans absolus. C'est parmi les premiers à avoir importé le vin naturel français, notamment. Les États-Unis explosent aussi. Des pays d'Europe du Nord, pareil, ça bouge partout. L'Italie est aussi, alors n'importe moins, parce qu'elle produit aussi beaucoup de vin naturel. L'Espagne aussi en produit pas mal. Donc tous les pays producteurs aujourd'hui font du vin naturel et ça prend. Grâce aux restaurants, aux caves, tout ça, ils veulent ces vins-là. Il y a une demande de plus en plus forte, donc la demande ne suit pas d'ailleurs. Il y a pas la production ne suit pas du tout. Et ceux qui sont bien embêtés, c'est ceux qui ne font pas le vin naturel.
Donc si je suis intelligente, je fais du vin nature que j'exporte, je réussis économiquement et en plus je fais du bien à ma santé.
À mon goût, à l'environnement, aux riverains évidemment des vignes, parce que passer des pesticides dans les vignes, c'est jamais très bon. Et oui, et puis c'est aussi quelque chose de la sincérité. C'est des produits qui sont sincères, parce que sur l'étiquette, il n'y a rien d'écrit, parce qu'il n'y a rien dans la bouteille. Contrairement aux autres, il n'y a rien d'écrit, alors qu'il y a plein de produits utilisés, mais on ne le sait pas. Donc c'est des produits vraiment sincères et authentiques qu'il faut défendre et boire.
Antonin Yomi Amunategui, auteur dernièrement d'un guide des vins nature à moins de 15 euros, le Glou Guide, et de plusieurs livres sur le vin naturel. Iris et Vincent, c'est le temps des vendanges. Alors racontez-nous, comment ça se passe? Comment est-ce que tout cela s'organise?
C'est beaucoup plus compliqué. Bon, nous, ça allait, on avait une toute petite surface à récolter. Mais voilà, il y a plein de trucs à prévoir. Comment sortir le raisin de la parcelle, c'est quand même très compliqué. Quel contenant, combien de personnes, combien de temps ça prend, comment on ramène le raisin. C'est des trucs qui ont l'air simples comme ça, mais une fois qu'on se retrouve le nez dedans, c'est compliqué. Et puis après, tout ce qu'il y a autour, le logement des gens, le catering.
C'est ça, parce qu'il faut les nourrir.
Les abreuver, alors qu'on n'a rien produit encore. Non, c'était,
il y a le
c'était super. Normalement, c'est vin, saucisson, fromage, à 9h30 du matin. Voilà, c'est ça la tradition.
Parce qu'on est dans les vignes tôt, il faut arriver. C'est un travail qui est assez pénible et délicat.
Ouais, Mais en même temps, nous, c'était des vignes très pentues et finalement, ça fait moins mal au dos, les vignes pentues. Donc c'était moins dur.
C'est quoi la parcelle ?
C'est le petit bout, voilà.
Le petit bout qui est là, en trait de route.
En fait, celle qui est sous la maison aussi, c'est celle qu'on a faite hier.
Ah oui, d'accord, on est de l'autre côté. Donc, oui.
Il n'y a que ça qui est mûr.
Ouais, il y en a pas dans l'instant.
C'est du chirouble.
Tu coupes... Tiens, celle-là, elle est moche.
Le pédoncule, quoi.
Il y en a des verts encore, là.
Ça y est, il fait chaud.
Et hier, tu vois, on était touchés vachement plus tard par le soleil. Alors après, tu auras tout, mais...
Y entends-tu le vent noir des corbeaux sur la plaine?
Bah là j'ai taillé en mars cette année mais c'était presque trop tard parce que ça commençait à débourrer. Donc j'ai fait ça super vite et tout. Parce que si tu tailles trop tard après t'as la sève qui coule au bout des bois. Par contre ce qui est bien c'est que ça sort donc t'as pas de maladie qui rentre. Nous, on l'a récupérée l'an dernier. Ça faisait un an qu'elle était abandonnée. Donc, elle était plus désherbée, plus traitée, plus rien. Et nous, on l'a récupérée. Bah, on a fait des traitements bio, mais par contre, on n'a toujours pas désherbé. On a pas... Enfin, après, tu as une zone avec vachement d'herbe. Là. T'as de l'eau qui passe. Parce que tu as de la menthe sur le chemin quand tu passes,
ah oui,
sur la menthe.
Plein,
en général, quand tu as de la menthe, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Et il y a deux zones hyper vertes qui sont tout le temps hyper, hyper enherbées, très grasses et tout. Tout le reste, c'est méditerranéen. Hein.
Ben là, c'est bon, hein.
Ouais, c'est bon.
Bon. Regarde comme il est clean, le raisin. Il est vachement beau, hein.
Ouais,
oui.
Super beau.
C'est qu'un sucre. T'as goûté comme il est sucré.
Mmh. Ouais, vache. Je te dis, on dirait du raisin de table.
Un petit kawa.
Tiens.
Ah,
tu veux qu'on porte la seule, tu veux le bassin ?
Oui, il y en a deux qui portent et deux qui maîtrisent.
Bon, on va viser le raisin.
Donc c'est dans cette
là-dedans.
Que ça va.
Ouais, d'accord.
Faut éviter que la chaleur prenne les gueux.
Ah oui. Alors ça c'est le pied de cuve. C'est un levain. On a récolté du raisin la semaine dernière. Un petit peu de raisin et on l'a mis dans cette petite cuve et il est parti en fermentation. C'est pour ça que ça blougloute. On met ça au fond de la cuve qu'on va en cuver aujourd'hui et ce sera déjà dans un milieu fermentaire. Donc la fermentation va partir plus vite. Ce sera plus sain. L'autre grande cuve étant partie en fermentation, il y aura une ambiance fermentaire dans tout le cuvage et là on n'aura pas besoin de faire la même opération pour les cuves suivantes. Il y aura des levures qui vont se promener dans tout le cuvage. Les levures, ça se balade dans l'air, il y en a plein les murs. C'est pour ça que la vinification, c'est aussi lié à l'endroit où elle se fait.
C'est quoi alors ce plat ?
Je vais faire un poulet rôti, mais je cherchais différents plats parce que l'autre là, il me paraissait un peu grand. Donc, je le désherbe, tu vois, comme ça.
De la sauge du thym.
Voilà. Sauge du thym. Ça va être comme ça. Ça, on mettra en dernier. Des oignons. Ouais, non, mais il faut une organisation terrible. Avec Iris, tout est complètement balisé, bien.
C'est
incroyable. Ouais, vraiment. Oh, c'est sympa de participer à ça.
Comment est-ce qu'on sait qu'il faut vendanger ? Comment est-ce que ça se détermine, ça ? Surtout c'est, vous, pour votre première
récolte. Ça fait pas partie des choses qu'on sait faire dès le début.
Mais justement, c'est empirique.
Il y a deux approches. Il y a une approche technique, d'ailleurs, dans tous les cas. C'est comme pour le son à la radio. On utilise les vues-mètres ou on utilise ses oreilles. Bon, bah, là, on a les deux. On a des vues-mètres, c'est la présence de sucre, la quantité de sucre présente dans
le taux d'alcool, l'acidité.
l'acidité. Donc tout ça, c'est des données qui sont mesurables. On envoie des échantillons à un labo qui nous donne ces différentes mesures. Et puis, il y a quand même la dégustation des baies du raisin.
Donc des grains on...
Des grains, voilà.
Ouais.
Des pépins.
C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident.
L'aspect
c'est tout
un visuel. Voilà, bon, tout ça,
ça peut avoir l'air mûr. Enfin, on peut avoir un raisin qui goûte très sucré, très agréable, mais qui n'est pas complètement mûr. Enfin, ça demande vraiment une grande pratique de travailler juste à la dégustation.
Oui, ça c'est
parce qu'à partir du moment où le raisin peut être mûr, mais pas à complète maturité, donc c'est quand même bon à manger. En plus, nous, on connaissait pas nos parcelles, donc on ne sait pas jusqu'où on peut aller avec telle ou telle parcelle. Donc c'était pas évident.
Ouais.
On a fait surtout des analyses, nous. Enfin, on a goûté le raisin, mais on a analysé aussi.
On peut ajouter à ça les contraintes techniques. Qui consiste à, enfin, logistique, qui consiste
oui, avoir une équipe au bon moment.
Constituer une équipe
au dernier moment.
Vous aviez combien de vendangeurs alors pour cette première récolte?
On a fait 2 week-ends avec des amis, on était une douzaine.
Ouais.
Et puis on a fait une journée avec des gens du coin qu'on connaissait pas vraiment. Enfin, on a formé une petite équipe, on était 8 pour faire une grande parcelle où on a bossé toute la journée. Bon, franchement, on est bien tombé. C'était des gens du coin qui étaient très sympas, qui étaient contents d'être là. Mais ça peut être très compliqué de se retrouver confronté à une équipe de vendangeurs qui travaille très dur, en plein soleil, qui est très fatigué, qui boit beaucoup.
Et qui parle pas français. Il y en a beaucoup qui viennent des pays de l'Est.
Donner des ordres tout en restant sympa, enfin, se faire respecter, mais quand même avoir... parce que parfois, il faut trier du raisin, il faut faire un vrai boulot. Donc, c'est difficile de gérer les gens, de faire en sorte que le boulot soit fait dans de bonnes conditions.
Ouais.
Plusieurs métiers en un.
Ouais, c'est compliqué.
Ah oui, oui.
Enfin, bon, nous, on a eu de la chance.
Mais... C'est compliqué, mais comme on avait une petite récolte, c'était beaucoup moins compliqué quand même.
Les vendanges en l'hémisphère sud, c'est plutôt au printemps. À Dakar, au Sénégal, elles étaient au mois de mai. Oui, vous avez bien entendu. À Dakar, au Sénégal, c'est là qu'est né en 2015 le premier vin d'Afrique de l'Ouest. Une idée un peu folle, pionnière, concrétisée par 2 hommes sénégalais de cœur et amateurs de vin. Un projet unique qui porte ses fruits. Charlotte Hydrac, notre correspondante au Sénégal, s'est rendue au domaine du Clos des Baobabs, à un peu plus d'une heure de Dakar.
Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, chef de culture, Clos des Baobabs. Depuis le tout début, j'ai appris avec des gens qui viennent me former de France. Puis le reste, je l'ai appris dans le tas. Je regarde, j'observe.
Quelles sont les difficultés pour la vigne ici, sur la terre, sur le climat?
Les problèmes qu'on a, c'est les termites. Parce qu'on a beaucoup de mortalité de termites. C'est ce que tu vois, les pieds comme ça, c'est les termites. Sinon, les difficultés, une fois que tu as les raisins, tu as les singes qui viennent le bouffer, tu as les oiseaux. Mais là, on a trouvé une solution avec des filets et des gardiens, plus quelques chiens.
Il y a combien d'hectares de vignes ici?
Bon, là, c'est 1,5 hectare. Et il y a l'hectare expérimenté. Et le demi-hectare, ça fait 3.
Ces 5 dernières années, comment ça a évolué le domaine?
Bon, il y avait l'hectare expérimenté qu'on avait planté au début, qui avait 5 cépages différents. Et sur ça, on a vu toutes les maladies, tous les problèmes du climat, les problèmes de terre et tout. Et regardez le cépage qui marche le mieux aussi ici au Sénégal. Et c'est sur ça qu'on a trouvé que le grenache marche beaucoup mieux que les autres. C'est pour cela que quand ils ont s'élargi, on a fait 2 hectares de grenache.
Donc il a fallu tester en fait, c'est ça?
Oui, pendant 3 ans. Ce que tu vois là, c'est, on les a plantés en 2017, février 2017. Donc c'est du jeune vin. Et c'est ce qui nous a donné cette année la production.
Donc là, pour le cru 2020, ce sera grenache, c'est ça?
C'est grenache, oui. Vraiment grenache qui marche le mieux. Le syrah, bon, ça donne. Mais dès qu'il y a un petit peu de vent chaud et sec, les fruits sèchent. Alors que le grenache, non, il n'y a jamais ce problème-là.
Est-ce que le cru 2020 s'annonce bien?
Ouais, ça s'annonce bien, mieux que les autres années, parce que les autres années, c'était juste une phase de test. Et là, on passe à la phase de production. Donc, quand on a taillé, on a compris qu'il faut faire du gobelet. Et le gobelet, ça marche beaucoup. On voit qu'on a des pieds qui ont 5-6 grappes. Et pourtant, c'est des jeunes pieds. Ici, ça ne repose pas. Dès que tu plantes, ça redonne du fruit, tu vois. Tu vois? Ça ne se repose pas. Dès que quelque chose a mangé, ou bien une chèvre ou une vache, ça pousse et ça sort. Donc ça repose. C'est pour cela que nous, on passe dessus, enlever, sinon ça fatigue le pied.
Il n'y a pas de culture encore du vin au Sénégal. Comment c'est perçu de faire du vin ici?
Ah, ça, moi, quand ils m'ont dit ça, moi, je savais qu'au Sénégal, ça n'a jamais été fait. C'est une idée qui était, pour moi, c'était un peu fou, mais là, j'ai vu que c'est une bonne idée, il y a du résultat.
Vous serez fier quand le cru 2020 là, sera commercialisé?
Oui, je serai fier de savoir que moi, j'ai été dedans et que j'ai fait beaucoup d'efforts.
Vous les aimez, ces vignes?
Oui, je les aime parce que je passe mon temps dedans à regarder ceux qui sont morts. Je rebouture tout parce que simplement, au lieu de faire venir le pied de France, tu coupes, tu reboutures, ça pousse et ça donne mieux le raisin parce que le pied est né ici.
Alors qu'au départ, c'était des pieds importés de France, c'est ça?
Tout ça, c'est des pieds importés de France. Mais dedans, tu vas marcher, tu vas voir, il y a des pieds qu'on a bouturés en janvier. Et ça a bien donné. Parce que dès que tu coupes, tu plantes, ça pousse. Ça donne mieux que les pieds de France.
Vous le goûtez, le vin d'ici?
Non, malheureusement, je ne goûte pas. Je suis musulman, papa catholique et maman musulmane. Je le sens. On taille le 12 janvier, 5 mois après, on récolte fin mai. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est seulement rebouturer. Et l'hivernage se finit presque en octobre, donc de d'octobre à janvier, on n'arrose pas. C'est à partir de janvier, on arrose 5 mois. Dès qu'on fait les récoltes, on n'arrose plus. En France, ils traitent beaucoup. Nous, par contre, ici, nous, on ne traite pas. On a seulement des chenilles. Par moment, après, t'as plus rien. Donc, ce qu'on met seulement, c'est l'engrais, mais sinon, on met rien sur les feuilles et tout ça. Et tu vois, ils sont jolis. Ça, c'est les feuilles de fin de cycle, ça.
Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde avec Iris Mauclair et Vincent Lebègue, vignerons installés depuis peu dans le Beaujolais au nord de Lyon, à Croix-Charnay. Les vendanges ont été faites. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Racontez-nous dans l'ordre.
Le raisin est récolté dans des caisses. Et non pas dans des grands bacs, pour ne pas être mortifié trop vite. Et on le met dans des cuves en plastique, enfin en fibre de verre. On pourrait aussi le mettre dans des cuves en béton ou des cuves en bois. Mais là, comme on est parti de zéro, on a pris le moins cher disponible. Donc des cuves en fibre de verre. On le met entier. On n'a pas retiré les grains de la grappe. Et puis, on le met à l'abri de l'air. Et on laisse le temps opérer pour que les levures entrent en action après que les enzymes aient commencé leur travail à l'intérieur de la peau. Ça crée une mortification. Les grains se libèrent d'eux-mêmes leur jus qui entre alors en fermentation alcoolique, levurienne. Et voilà, ce jus s'accumulant libère de l'alcool, enfin je veux dire s'enrichit en alcool. Cet alcool va tuer les premières levures qui sont intervenues et va laisser la place donc à d'autres levures, et il y aura tout un enchaînement de fermentation levurienne. Et dans le même temps, la fermentation enzymatique continuera à l'intérieur des baies.
Donc tout ce processus de vinification se met en place.
Voilà, et donc on goûte régulièrement tout ça.
Et il faut décider quand décuver.
Au bout d'un moment,
fait encore partie des choses.
Il y a un geste très important qui est le décuvage. Ouais. Ah, c'est-à-dire sortir le raisin de la cuve, le mettre dans le pressoir, le pressurer, et réunir ou pas ce qu'on appelle le vin de tir et le vin de presse, celui qui s'est exprimé naturellement dans la cuve, le vin de tir, et puis le vin de presse qui est résultant du pressurage, qui est forcément un jus qui n'en est pas au même état que le vin de tir, puisque le vin de tir est déjà très fermentaire et alcoolisé, alors que le vin de presse, c'est du jus de raisin. C'est
du jus de raisin.
Qui va relancer une fermentation très explosive, puisque là, on est dans un environnement très riche en levure. Enfin, vous voyez.
On a des levures qui commencent à avoir faim d'un côté et tout un tas de sucre qui leur tombe dans les bras de l'autre.
Il y a des bactéries qui attendent leur tour, mais qui parfois sont très pressées, donc elles vont intervenir aussi. Voilà, tout ça, c'est.
C'est un subtil équilibre qu'il faut trouver, les bons temps, les bons
moments.
Choix à faire. Et on a.
Il faut être attentif à tout ça, voilà.
On a la boule au ventre, un peu, j'imagine.
On navigue un peu à vue. C'est vrai que là, la première année, on se dit, on pourrait faire ci. On pourrait faire ça. Alors, on a plein de potes vignerons qui viennent goûter, chacun a son idée, chacun donne son conseil, et puis nous, on essaye de s'y retrouver là-dedans. Mais c'est vrai que c'est la première année, comme ça, parfois on était un peu largués quand même.
Ça dépend de la personnalité du vigneron. Par exemple, personnellement, j'ai difficilement la boule au ventre, alors que Iris a facilement la boule au ventre. Donc, comme on est ensemble...
Il y a un subtil équilibre qui se crée là aussi.
Il y a aussi un subtil équilibre à créer. Il faut qu'on soit très attentifs l'un à l'autre. Et c'est chouette, parce que ça nous renforce aussi.
C'est une sacrée aventure. Quand on parle du Beaujolais nouveau, on parle de quoi? De quel vin?
Eh ben, le vin qu'on a vendangé l'année.
En septembre.
En septembre, voilà, qui a deux mois d'existence. C'est très difficile à réussir en nature, parce que on met pas de levure, on accélère pas vraiment la fermentation. Donc il faut que la fermentation se termine naturellement fin octobre ou plus tard.
À point nommé.
Parce que, que le vin ait le temps de se poser, donc c'est très difficile. Enfin, nous, on n'avait pas dit qu'on en ferait, on voulait surtout pas s'engager là-dessus. Mais on espère en faire comme ça chaque année, mais on n'a pas envie de s'engager à l'avance là-dessus, quoi, parce que...
On estime que c'est quand même difficile de faire de la précommande de primeurs, sans rentrer dans une logique industrielle, et on n'a pas du tout envie de... Enfin, j'imagine que vous avez compris que l'industrie et nous, ça fait deux. Voilà.
Pas d'usine dans vos vignes.
Pas d'usine.
Enfin, on dit ça aujourd'hui, mais bon.
Pas d'ouvriers, plutôt des potes, ce qui n'empêche pas une relation évidemment professionnelle. Notre premier profit, c'est surtout l'épanouissement qu'on a trouvé à faire advenir comme ça, fabriquer un produit... qu'on pensait n'être capable que de déguster ou consommer. Du coup, on est d'abord passé de consommateur à dégustateur. Ça, c'est une... Normalement, tout le monde doit pouvoir faire ça. Et puis après, éventuellement, de dégustateur à producteur, ou en tout cas, avoir cette curiosité-là. N'importe qui peut le faire. C'est comme pour la musique, n'importe qui peut être musicien. Ça n'existe pas de se dire, à 50 ans, moi, j'ai jamais étudié la musique, donc c'est foutu, quoi. C'est possible.
Donc pas de regret. J'ai bien tout compris. Ça doit être très enthousiasmant comme expérience. Iris, est-ce qu'on s'est inquiété pour vous? Est-ce qu'on vous a dit...
Ah oui, alors surtout à la période des grêles. Alors là, tout le monde était très très inquiet pour nous. Parce que le Beaujolais a grêlé très fort pendant deux ans. Les parcelles qu'on a achetées, c'était des couloirs de grêle. Donc tout le monde s'est beaucoup inquiété pour nous. Pour la grêle, et puis après, oui, pour les vendanges, les vinifications, on avait quand même tout un tas de gens autour de nous qui nous ont aidés, qui sont venus chez nous.
Et votre père, alors, il n'en pense
pas? Ah bah lui, il vient tout le temps, il aime bien travailler à la maison. Non, il est ravi.
On va le retrouver dans sa cave à Montfort-Laborie.
Voilà. Donc, on a fait un décuvage avec lui, c'était vraiment sympa. Puis
ça doit être assez émouvant, d'ailleurs, pour lui, d'avoir...
Ouais. Je pense, ouais.
Ah, oui, c'est très émouvant, bien sûr, ouais. Manifestement.
On va voir ce soir, peut-être qu'il va verser
du sang. Son père, sa mère, toute la famille est très émue. Oui, bien sûr. Non, mais tout le monde est très content. Enfin, je vois pas comment on pourrait ne pas être content. Cela dit, d'avoir quelqu'un dans sa famille qui fait du vin, c'est quand même...
Ouais, c'est quand même sympa. C'est surtout qu'on n'est pas une famille d'agriculteurs. Il y a personne dans notre famille qui n'a de terre. Donc c'est marrant, on va réorienter une branche de la famille dans un autre coin. Et puis, s'inscrire dans un...
Dans un autre héritage.
Un truc d'agriculture, de propriété, de terre. C'est marrant. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais c'est marrant.
Le goût, quoi. Le goût. Ouais. Vraiment, quoi.
Le goût. Quand on vous dit bonjour, madame, votre profession, vous dites?
Eh ben, je commence juste à le dire, mais je me définissais plutôt comme ouvrière viticole. Et là, cette année, ça y est, je suis vigneronne.
C'est une légitimité progressive.
Oui.
Vigneronne.
Oui, je suis.
Ça fait son petit effet à Paris, en tout cas.
Et bon, voilà. Ouais. D'ailleurs, finalement, on n'a pas arrêté nos activités antérieures. Elles se prolongent dans cette activité-là. Et je pense que c'est pas très compliqué d'essayer de trouver une cohérence à tout ce qu'on fait, qu'on envisage. Il y a un lien. Ce lien, il est au fond de nous. On peut le trouver, quoi. Moi qui suis musicien et ingénieur du son et créateur sonore, je continue de le faire concrètement en dehors de la viticulture. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est un prolongement. Iris était libraire avant.
Oui, et bon, bah là, du coup,
et ben non,
pas vraiment de
mais non, 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 mais si, parce que il y a une continuité dans la relation au monde, au public, à travers un filtre particulier qui, là, se trouve être le vin.
Est-ce que vous faites écouter de la musique à vos vignes?
Non, on n'a pas encore lancé ça, on n'a pas fait comme Romain.
Et c'est quelque chose en cuverie, ouais, ça se fait, hein, y a des vignerons qui font ça.
Alors, j'ai joué en cuverie ici quand même, hein. J'ai joué aux cuves en fermentation. Mais je peux pas dire que j'ai joué pour elle, j'ai joué avec elle, quoi. Ouais.
C'est une pensée autour de ça, où on se dit que faire écouter de la musique, c'est,
ouais, ça permet pour les vignes, ouais, ça se fait, ouais.
Oui, c'est-à-dire qu'on attribue aux ondes sonores, elles ont des propriétés physico-chimiques.
Lutte contre les maladies, et puis même basiquement, éloigner les sangliers, ça peut aussi...
ça peut être très pratique.
Non, mais c'est ça, elles ont des propriétés, maintenant il faut les découvrir, alors certains sont plus sensibles à ça que d'autres. Bon, rien n'a été établi de façon certaine.
Ce qui est bien, c'est qu'on va vous revoir plus tard,
ouais,
et vous me direz, ça y est, maintenant le savoir-faire.
Ça va peut-être se complexifier l'an prochain.
On a installé
une sono dans les parcelles nord.
Ou alors c'est en train de rentrer aussi, vous aurez cette connaissance, vous savez, on n'a pas besoin de dire et d'exprimer, on sait.
Oui, ah oui, 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 ouais, que... ouais, non, c'est vrai, bon.
Mais on sent déjà des choses, hein, quand
comme
même.
Comme disait Jules Chauvet, on sait rien, plus ça va. Et...
Ouais. C'est empirique, on apprend au fur et à mesure, il y a des sensations.
On apprend toute
quand
sa
même.
Vie, en fait, apparemment, là.
Oui, on passe son temps à découvrir. Non, mais par contre, la fermentation, c'est fascinant. On voit bien que le vin, c'est une petite partie de cet aspect des choses qui est fondateur de l'humanité, de la civilisation, quoi. Enfin, à l'origine de la civilisation, c'est, pour moi, c'est les processus fermentaires, c'est la maîtrise des processus fermentaires. Tout part de là. La sédentarisation, la culture des céréales, quand on a découvert qu'on pouvait les manger en les fermentant, en les faisant fermenter. Bon, tout ça, c'est le vin pareil. Donc, on est issu de ça. Donc, forcément, c'est une manière de revenir aux origines, à l'essentiel. Donc, on n'a pas fini. Peut-être qu'on fera du pain.
Du fromage,
voilà. Ouais. Le saucisson, mais c'est du saucisson, quoi.
Bon, ben voilà, on a tout un programme.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci.
À tous les deux. Le goût du monde se referme. Merci beaucoup, Iris Mauclair, Vincent Lebec, d'avoir partagé avec nous les débuts de votre aventure vigneronne. Longue vie au Beaujolais village du domaine Croix-Charnay. On peut vous écrire et aller vous voir. Les coordonnées de votre domaine seront sur la page du goût du monde. Celle aussi, bien sûr, du domaine du Clos des Baobabs au Sénégal. Si vous connaissez des exploitations viticoles près de chez vous, aidez-nous à les découvrir. Le vin africain, voilà qui ferait une belle émission, non? Qu'en pensez-vous? Écrivez-nous, racontez-nous en photo, en vidéo, sur les pages Facebook et Instagram du Goût du Monde, sur WhatsApp 33 1 43 16 15 66. On vous lit, on vous écoute. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence, même heure. D'ici là, prenez soin de vous.
Bon, bah la vôtre, hein, les vendanges.
Ah, si.
On va faire un putain de chirouble, ça n'est
pas. Ouais.
J'ai un peu quand on tient pas le verre par le pied, on se
à la bonne vôtre, on l'amuse.
Il faut pas le tourner dans le même sens. Hein.
Comment ça?
Il faut le tourner comme ça, il faut le tourner dans l'autre sens. Hein.
Ah bon?
Le vin? Ouais, avec le bras, la main gauche est plus facile. C'est dans ce sens-là.
On va salir ma belle chemise jaune.
Voilà, c'est ça. Parce qu'on est dans l'hémisphère nord.